réplique, gouverner en démocratie, avec Nicolas Rousselier et Pierre-Henri Tavoyot. Comme l'actualité le montre tous les jours, notre démocratie est très divisée. Et l'une des questions qui la divise le plus est précisément la question de la démocratie. Certains, qu'ils portent ou non un gilet jaune, considèrent que sous la belle apparence du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, une oligarchie nous dirige. Et pour en finir avec la toute-puissance de cette élite arrogante, ils réclament une vraie démocratisation de la vie politique. D'autres, dans le sillage notamment de Michel Rocard, s'inquiètent de la situation faite à ceux qui sont aux affaires en autant d'immédiateté frénétique, de transparence obligée et de surveillance perpétuelle. Comme l'a écrit Guy Carcassonne, la discrétion devient suspecte, la pudeur maladive, l'opacité illégitime, le secret monstrueux. Ce n'est pas en contrôlant toujours davantage le gouvernement qu'on résoudra la crise de la démocratie, disent ces critiques du deuxième type, c'est en lui rendant les moyens de gouverner. Pour contribuer au grand débat en cours, j'ai invité aujourd'hui Pierre-Henri Tavoyot, qui publie un traité nouveau d'art politique sous le titre « Comment gouverner un peuple roi » et Nicolas Rousselier, auteur d'un grand livre sur l'histoire du pouvoir exécutif en France, intitulé « La force de gouverner ». Je leur demanderai ceci pour commencer. De quoi souffre donc notre démocratie ? De la confiscation du pouvoir ou d'un pouvoir empêché ? Pierre-Henri Tavoyot.
Il faut partir du mot démocratie lui-même, qui est composé de démos et de kratos. Donc, j'allais dire structurellement, parmi les critiques que l'on adresse à la démocratie, il y a celles qui considèrent qu'il y a trop peu de démos, trop peu de peuple, et celles qui considèrent qu'il y a trop peu de kratos ou une forme d'impuissance publique. Donc, j'allais dire, ce débat est ancien, il est même consubstantiel et simultané avec la naissance même de la démocratie, puisque déjà Platon reprochait non pas tellement l'oubli du peuple, mais en revanche, en effet, l'impuissance publique, et pour lui, la démocratie était identifiée à cette incapacité, à cette impuissance constante. Alors, pour ma part, si on prend le diagnostic contemporain, j'ai tendance à penser qu'en effet, le déficit démocratique contemporain tient davantage du côté du kratos que du côté du démos. Donc c'est un peu contre-intuitif, parce que le discours ambiant, si je puis dire, nous dit que nous sommes mal représentés. Or, je crois que si on a un tout petit peu de recul historique, on pourrait considérer qu'on n'a jamais été aussi bien représenté qu'aujourd'hui. La connaissance de la société a atteint un point inimaginable. Tous les élus scrutent avec une attention démesurée le moindre soupir et le moindre éternuement, si je puis dire, de tous leurs administrés et de leur électorat, ne serait-ce d'ailleurs que pour se faire réélire, ce qui est la principe. Et donc, en fait, c'est plutôt une crise de croissance de l'exigence de représentation que nous sommes en train de vivre, plutôt qu'une crise de la représentation. Et les Gilets jaunes l'incarnent en une certaine mesure, c'est-à-dire les Gilets jaunes représentent des gens qui, dans la tradition française, n'avaient pas particulièrement d'exigence de représentation. Voilà, ils étaient là, ils considéraient que les élus faisaient leur boulot. Et là, brutalement, ils se sont perçus comme étant oubliés. Et peut-être à juste titre. Je pense que c'est à juste titre de la part d'une partie de la représentation politique et médiatique.
Oui, mais alors justement, oubliés, c'est vrai, c'est une France invisible qui a revêtu un gilet fluorescent pour qu'on la regarde, pour qu'elle puisse exister. Mais vous écrivez pour gouverner un peuple roi. Comment gouverner un peuple roi ? Ce peuple-là n'était pas roi du tout. Il semblait ne pas exister. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire ?
La grande illusion, c'est le discours qui consiste à dire les gilets jaunes, quand les gilets jaunes disent nous sommes le peuple.
Ah oui.
Donc ce n'est pas le peuple, c'est du peuple. Et du peuple, effectivement, qui n'était pas entendu, une partie de la société qui n'était pas entendue. Donc c'était pas le peuple, ce n'est pas le peuple qui s'exprime, c'est une partie du peuple qui décide d'avoir un peu accès à l'espace médiatique. Mais pour moi, donc, c'est plutôt du côté de l'impuissance publique, mais on y reviendra.
D'accord. Quel est votre diagnostic, Nicolas Rousselier?
Moi, je dirais que c'est le pouvoir d'abord qui a changé. Qui a changé, y compris dans sa volonté de se pluraliser. La volonté du pouvoir, du Kratos, le gouvernement, la puissance publique, l'administration. Sa volonté, justement, d'aller chercher l'expression, la consultation démocratique au plus bas de la société. La grande nouveauté des, si vous voulez, depuis les 50 dernières années, et la grande transformation, c'est pas que la démocratie soit plus ou moins représentative, c'est que ce que j'appelle la démocratie exécutive, qui a gagné par le haut, qui a gagné le match, qui était très ancien, contre le Parlement, contre le parlementarisme, qui réussit à discipliner sa majorité, qui réussit donc à faire passer relativement facilement les projets gouvernementaux qui deviennent des lois. Donc ça, c'est gagné. Mais l'autre dimension du circuit, c'est de pouvoir aussi, si vous voulez, réussir l'application des réformes. Et là, le phénomène contemporain, c'est qu'un pouvoir ne se contente plus finalement de produire une loi par le haut. Il se sent redevable et obligé de consulter, négocier, associer. Donc le pouvoir se pluralise. Il y a, si vous voulez, le gouvernement ne se résume pas à un moment, il devient un circuit. Le moment de la loi n'est plus suffisant. Il commence par la loi, mais ensuite les problèmes commencent. Les problèmes d'application, de réussite sociale de la loi, si vous voulez. Et donc, ce que le pouvoir démocratique moderne s'est donné comme obligation, c'est à son honneur en quelque sorte, c'est d'être encore plus complexe et avoir encore plus de difficultés parce qu'il souhaite associer des associations, des acteurs de la vie sociale. Il négocie, il consulte. Là, on pourrait dire que certes, on pourrait avoir un sentiment de complot en disant la consultation sociale du pouvoir exécutif moderne, c'est de la daube. C'est-à-dire qu'en fait, il consulte pour mieux déminer le terrain social, pour par exemple faire advenir les oppositions et mieux les circonscrire. Et on pourrait dire c'est toujours l'État fort, c'est toujours la puissance publique qui est forte. Mais d'un autre côté, je ne pense pas. D'un autre côté, on voit très bien que la démocratie de la politique publique amène beaucoup plus de difficultés, d'un certain tant mieux, beaucoup plus de difficultés, et se fait finalement aussi au détriment de l'ancienne représentation du pouvoir.
Alors, difficultés, dites-vous, en effet, et je crois même que, comment dire, la définition même de la démocratie change aujourd'hui, et c'est l'une des difficultés, c'est-à-dire la démocratie, c'est l'exercice du pouvoir par le peuple en la personne de ses représentants. Et pour un certain nombre de gens, cela devient la surveillance du pouvoir par la société en la personne des lanceurs d'alerte, des juges et des journalistes d'investigation. Comme si le souci de transparence l'emportait sur le souci du bien commun. Et j'ai le sentiment que c'est un peu le triomphe posthume, et vous me direz si j'ai raison ou tort, de la philosophie d'Alain, le citoyen contre les pouvoirs, merveilleusement analysé par Raymond Aron dans ses chroniques de guerre. Alain, dit-il, a convaincu une partie de l'opinion de gauche que l'opposition morale du citoyen au pouvoir apportait la meilleure garantie des libertés et de la paix. Et il dit ceci, Alain considère que l'ivresse du pouvoir, c'est comme l'ivresse du vin, et donc elle est extrêmement dangereuse, et Raymond Aron conclut en ces termes, le vrai citoyen veut choisir des chefs, non les enchaîner par le soupçon perpétuel. Il veut la grandeur de la nation en même temps que la sécurité personnelle. Il veut des pouvoirs légitimes, mais capables d'action. Le citoyen ne s'accomplit pas dans la lutte contre les pouvoirs, mais dans une libre adhésion à la communauté. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui affaire, justement, à un citoyen qui voudrait s'accomplir dans la lutte contre les pouvoirs? Pierre-Henri Tavoyou.
Alors, il me semble que cette question sur la question du contrôle du citoyen, est-ce que c'est ça la véritable essence de la démocratie? Ce qui est la thèse d'Alain, c'est-à-dire l'essence de la démocratie, c'est non pas le pouvoir du peuple, mais le contrôle par le peuple du pouvoir. pense qu'il faut revenir pour vraiment affronter les choses de, si je puis dire, de front, de face à la question centrale, c'est de savoir qui est le peuple, parce que c'est ça la question fondamentale. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une pluralité de réponses à cette question. J'allais dire, on cherche le peuple dans la rue, sur les ronds-points, dans les rangs de l'Assemblée, on ne le trouve pas. Alors face à ça, en général, le premier réflexe est de dire, on ne sait pas qui est le peuple, mais au moins on sait qui sont les ennemis du peuple. Et on va les identifier comme étant les hyper riches, les assistés, les immigrés ou que sais-je. Ça ne marche pas davantage parce que, à rechercher les ennemis du peuple, eh bien, on divise. Alors, en général, le troisième moment de ce raisonnement, c'est quelqu'un arrive la main sur le cœur et disait, mais je vais vous réconcilier, le peuple, c'est moi. Voilà. Et on va y croire un petit moment. Et puis, de nouveau, c'est reparti pour un tour. Ce qui me paraît vraiment important, c'est que cette question de savoir qui est le peuple doit être affrontée sous une forme peut-être un peu différente. Les libéraux avait déjà une partie de la réponse en affirmant que le peuple a plusieurs visages et qu'il est totalement illusoire de vouloir l'unifier. Le peuple, c'est à la fois la société, mais c'est aussi l'État et c'est aussi un peu d'espace public. Et les libéraux rêvaient qu'il y avait entre ces trois peuples, ces trois figures du peuple, une espèce de d'harmonie, d'autorégulation qui allait se faire. Il me semble qu'il faut faire une case de plus, un pas de plus, en considérant que le peuple n'a pas un visage fondamentalement, il a des visages bien sûr, mais c'est avant tout une méthode. C'est-à-dire la manière d'organiser cette vie commune. Pour le dire d'une formule, le peuple, c'est la capacité collective d'agir. Et ça, ça apporte vraiment plein d'idées, plein de solutions.
La capacité collective d'agir, dites-vous. Bon, je citais Alain tout à l'heure. Ceux qui pensent le citoyen contre les pouvoirs aujourd'hui, c'est Mediapart, bien sûr. Mais c'est aussi Pierre Rosanvallon, dans ce livre « La contre-démocratie ». Je le cite parce qu'il parle aussi du peuple et des métamorphoses du peuple. Et il dit « au peuple ». Électeurs du contrat social, se sont surimposés de façon toujours plus active les figures du peuple surveillant, du peuple veto et du peuple juge. Et ils se félicitent, en dépit de ces dérives, du rôle d'Internet et de son adaptation spontanée aux fonctions de vigilance, de dénonciation et d'imputation. Voilà, et voilà une figure du peuple qui apparaît aujourd'hui, non pas précisément en tant que capacité collective, mais en tant que facteur, je le dis de manière un peu polémique, avec toutes ces imputations, un facteur d'incapacitation, absolument, malgré tout. Comme si, plus on incapacitait le pouvoir, plus la démocratie, si vous voulez, se déployait dans son essence.
Ce que j'appelle personnellement les abus de contre-pouvoir.
Oui, moi je voudrais prendre, prendre la défense de ce principe de base, et vous avez cité Alain. Oui. Et être contre... On peut aussi dire que c'est le premier pas, c'est le béaba de l'acte démocratie. C'est le pas par lequel on entre dans la démocratie. Et il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans la démocratie que d'exprimer un mécontentement, d'exprimer quelque chose contre lequel on est. Donc le fait d'être contre me semble, si vous voulez, donner la main au simple citoyen, lui donner le moyen de la première expression, du premier pas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, je pense que la critique, être contre, et c'est ce que je disais il y a un instant par rapport à ce circuit de la politique publique, la manière de prendre une décision, soyons très concrets, la manière de prendre une décision locale, on peut penser à Notre-Dame-des-Landes, elle est extrêmement complexe, elle est donc par nature déceptive. Il y a plusieurs acteurs, pluralisation de la décision, parfois non-décision, indécision. Donc, à force de consulter tout le monde, on déçoit chacun un peu. Et chacun ressort de cette grande délibération publique avec son lot de déceptions. Et du coup, si vous voulez, cela échappe aux acteurs auxquels on avait promis un droit de participation. Du coup, la déception liée au droit de participation entraîne à nouveau une volonté d'être contre et d'être critique. Ce que je veux dire, c'est que la critique, on le voit aussi dans n'importe quelle organisation universitaire ou autre, c'est aussi, si vous voulez, le moyen d'être sur son rocher et de pouvoir contester le pouvoir.
Par où l'on voit que je partage cette analyse, mais la démocratie est un équilibre très subtil qui nous apparaît aujourd'hui dans sa complexité, dans la complexité de son équilibre justement. Ce peuple méthode, en fait il a quatre moments. Et c'est la difficulté d'articuler ces quatre moments qui est vraiment aujourd'hui l'enjeu principal. Le peuple méthode, c'est d'abord des élections. Ça, on aime bien, on sait bien ce que c'est, et souvent on a la tentation de définir même la démocratie par l'élection, ce qui n'est pas du tout évident. Deuxièmement, ce sont des délibérations. Ça, on adore, notamment en ce moment, en France. Le peuple méthode, c'est aussi la décision. Et ça, on a tendance à l'oublier. Parce qu'effectivement, comme vous le dites très bien, à un moment donné, il faut arbitrer, il faut trancher du point de vue de l'intérêt général. Or, à force de consulter les intérêts particuliers, on les fragmente. Et effectivement, l'intérêt général devient, pour les citoyens de base que nous sommes tous, simplement un intérêt particulier qui s'impose à nous. Et donc, on ne perçoit pas la dimension de généralité de cet intérêt particulier. Et puis, il y a un quatrième moment, c'est la reddition de comptes. Je crois qu'aujourd'hui, reddition des comptes, c'est-à-dire une fois qu'on a pris la décision, eh bien, on va l'assumer devant, effectivement, le peuple dans son ensemble. S'il manque une étape dans ce processus, on n'est pas en démocratie. Et la grande difficulté du gouvernement démocratique contemporain, c'est ça. Jamais, il faut que le citoyen prenne conscience de ça, il n'a jamais été aussi difficile. Il faut que l'homme politique soit un virtuose dans l'art de gagner les élections, qu'il soit ensuite un virtuose dans l'art de mener une délibération, qu'il soit un virtuose dans l'art de la décision et aussi de la résolution. C'est une décision qu'il ne suffit pas de décider, mais qu'il faut appliquer. Et il faut aussi, et c'est encore plus compliqué, il soit un virtuose dans l'art de la reddition de comptes. Or, le modèle des démocraties illibérales dont on parle beaucoup, c'est qu'elles respectent l'élection, elles prennent des libertés, si je puis dire, avec la délibération. Les décisions sont là, c'est d'ailleurs ce qui fait la séduction des démocraties libérales. Elles reviennent à l'efficacité. Et puis, il n'y a pas de reddition de comptes, ou très peu. Donc, on a deux moments simplement sur quatre. En France, démocratie libérale, ce qui nous manque clairement, c'est la décision. Je pense que ce dont souffre l'ensemble du peuple, d'ailleurs, c'est l'incapacité, le spectacle de l'incapacité, à la fois du fait de la mondialisation, mais aussi du fait de la propre impuissance dans laquelle on se plonge nous-mêmes.
Alors, je ne veux pas prendre ici la défense des démocraties illibérales, mais je veux... pour aller dans le sens de ce que vous dites sur l'impuissance des démocraties libérales, Pierre-Henri Tavoyot, je voudrais souligner le fait suivant. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'instances juridiques qui, dans nos démocraties, brident le pouvoir. C'est-à-dire que on le voit aujourd'hui, c'est la décision, quelquefois, qui est en cause, mais c'est aussi la capacité répressive d'un pouvoir face à des violences à caractère insurrectionnel. Le défenseur des droits veut interdire à la police d'utiliser les LBD. Quand on pense que c'est Jacques Toubon, c'est assez amusant parce que c'était un ministre de Chirac très répressif dans son époque chiracienne. Mais il y a aussi le Comité des droits de l'homme de l'ONU, où siège notamment la République islamique d'Iran, et il y a la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, oui. Donc tout ça tendrait à nous faire penser que le pouvoir n'a pas d'autre rôle que de garantir et d'accroître les droits individuels. Voilà. Et ça vient peut-être aussi, je m'interroge, d'une critique du pouvoir que nous a légué une grande partie du monde intellectuel, sociologues et philosophes, qui confondent pouvoir et domination. C'est-à-dire, il n'y a plus de pouvoir mais un pouvoir sûr. Et ce pouvoir sûr doit être déconstruit, doit être affaibli, mais précisément parce qu'on ne pense plus le pouvoir d'eux. Et ça met donc nos gouvernants dans une situation extrêmement difficile. Alors il ne faudrait pas lorgner du côté des démocraties illibérales, mais il faudrait peut-être leur rendre un peu plus de pouvoir, justement.
Oui. Je crois qu'il y a une question évidemment très importante, c'est ce sentiment que la puissance publique se trouve elle-même prisonnière de ses filets, au milieu de ses raies qui la rendent impuissante. Et là, effectivement, vous voyez comment s'engouffre la critique illibérale de la démocratie ou la reprise par la démocratie libérale. Prenons l'exemple de Salvini en Italie. On voit par exemple qu'il y a une sorte de retour au régalien. C'est-à-dire que pour pouvoir attester d'une soi-disant puissance publique, on redonne à la puissance publique une efficacité dans un domaine strictement régalien. De jeter à la mer ou de refuser l'accueil des immigrants, par exemple. D'appeler, j'ai vu ça dans une vidéo de Salvini, d'appeler à faire un fichier sur les Roms en Italie étranger, et il ajoutait « si je pouvais aussi mettre à la mer les Roms italiens, je le ferais, mais malheureusement, ils ont la nationalité italienne ». Donc, cette gesticulation d'actes régaliens qui font croire, mais qui mettent en scène une puissance publique, est effectivement le type de réponse le plus délétère qu'on peut avoir face aux problèmes que nous avons, qu'il ne faut pas nier, les problèmes que nous avons dans, dans notre démocratie exécutive, notre démocratie des politiques, démocratie des politiques publiques.
Oui, mais alors, justement, c'est une réponse délétère, et en même temps, vous convenez l'un et l'autre qu'il faut une réponse. Et il y a un passage très important de votre livre, Pierre-Henri Tavoyot, où vous parlez justement de la question de l'immigration, dont vous dites que ce dossier est devenu l'emblème de la dépossession démocratique et de l'impuissance publique. C'est-à-dire qu'un décret instaurant le principe du regroupement familial est pris en 1976 par le gouvernement Chirac. Raymond Barre suspend le décret face à un afflux d'immigrants. Le Conseil d'État annule cette suspension, expliquant que le regroupement familial fait désormais partie des principes généraux du droit français. Cette date est importante car elle marque le début du lâcher-prise politique sur l'immigration. Un sujet de gouvernement devient une affaire juridico-administrative ou une question morale, ce qui fait que la transformation de la France en société multiculturelle n'a été l'objet d'aucune délibération du peuple, ni d'aucune décision du pouvoir. Donc le démos et le kratos ont été l'un et l'autre, si j'ose dire, pris en défaut. Et ça, c'est quand même... peut-être que ça nourrit aussi la frustration des citoyens. Peut-être, disent-ils, le pouvoir est trop fort, mais si le pouvoir manifestait plus d'efficacité, peut-être leur rancœur serait moins forte que ce qu'on voit se déployer aujourd'hui.
Une des difficultés, je crois, du pouvoir contemporain, de l'exécutif contemporain, c'est qu'il organise lui-même sa propre impuissance. C'est ça le grand défaut, avec l'idée qu'il y a des sujets qui sont un peu sensibles. C'est vrai que le sujet de l'immigration est un sujet extrêmement sensible. C'est vrai que on peut bien considérer à titre individuel que le droit d'avoir sa famille quand on est en immigration est un droit effectivement universel. C'est un droit de l'homme, tout à fait. Mais du point de vue d'une collectivité politique, il est totalement anormal de passer en mode de pilotage automatique et de dire bah voilà, on va laisser les administratifs gérer l'affaire en posant des critères, et ce qui fait qu'on abandonne, mais alors avec une bêtise inouïe, cette thématique centrale de l'identité, de la cohésion nationale, de l'intégration, qui sont des thématiques politiques majeures, on l'abandonne au parti le plus extrême. C'est vraiment du suicide politique. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. On peut aborder avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de mesure cette thématique. Et aujourd'hui, on peut aussi savoir et voir qu'il y a des gens qui sont extrêmement compétents, notamment dans le Parlement. Je pense au sénateur François-Noël Buffet, qui sur les questions d'immigration est quelqu'un d'extrêmement compétent, qu'on entend jamais, alors qu'il est probablement le meilleur spécialiste. Et donc, de remettre un peu de politique dans cette question ne me paraît pas du tout scandaleux, et c'est justement le défaut de politique qui fait que cette question est devenue aussi vive.
J'ai deux remarques à faire quand même là-dessus. Oui, la première, elle est historique, c'est que la politique de l'immigration en France est depuis effectivement l'origine une politique administrative plus que parlementaire. C'est intéressant de voir que quand elle était défavorable aux immigrants dans les années 30, elle passait par des décrets-lois. Et le décret-loi, c'est très exactement l'abandon du Parlement en faveur d'un exécutif qui commençait à être dans les années 30. Je rappelle que Matignon, par exemple, c'est de 1935. Il y a un pôle de pouvoir exécutif qui s'installe à Matignon. Donc, c'est le pouvoir parlementaire qui s'est défaussé sur une technostructure qui commençait à apparaître pour prendre des mesures anti-immigration, notamment autour de 38, alors que le pouvoir était radical, c'était le pouvoir de Daladier. Donc, vous voyez, en
dans
fait...
Sens, hein,
oui, c'est ça, ça peut marcher
dans les deux sens. Bien sûr.
L'autre chose, c'est que dans ces années où le multiculturalisme se développe, d'une certaine manière, vous ne pouvez pas dire que la démocratie lato sensu, au sens large, a démissionné, puisque certes, au niveau du Parlement, la politique n'est pas reprise et n'est pas discutée, n'est pas délibérée. Mais en ce qui concerne la société, c'est tout à fait différent, puisque dans la société, il y a des associations. Donc là, c'est un peu un thème plus tocquevillien. Il y a des associations qui vont elles-mêmes prendre en charge, promouvoir, aider et donner une sorte de réponse sociale qui accompagne et qui donne une réponse, si vous voulez, positive. C'est l'ensemble de la société française qui, globalement, a accompagné et apporté une réponse que l'on peut estimer positive, qui accepte ce processus social. Si vous voulez, on ne peut pas s'étonner que sur ce long processus social de 40 ou 50 ans, il n'y ait pas eu un débat parlementaire cristallisant. En revanche, il y a eu mille et un débats locaux, associatifs, où la société française accepte ce phénomène.
C'est quand même... votre conclusion est peut-être un peu rapide, Nicolas Rousselier, parce que il y a un clivage à l'intérieur de la société qui fait peur à tout le monde, qui fait peur à certains en tout cas, puisqu'il se traduit notamment par la montée du Front National devenu Rassemblement National, qui est le deuxième parti politique français, et peut-être sera-t-il le premier à l'issue des prochaines élections européennes, on n'en sait rien. Il y a aussi des phénomènes extrêmement inquiétants dans certains quartiers, avec, disons, des gens qui déménagent, une homogénéisation de ces quartiers, il y a ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Donc, toutes sortes de phénomènes auxquels la France ne s'attendait pas, auxquels elle est confrontée un peu malgré elle. Alors, certes, des associations les accompagnent, mais une partie de la société est hostile et une autre partie un peu désorientée. Et on aimerait que ça soit le sujet d'une grande délibération collective, sereine, mais où tout est mis sur la table et on n'a pas l'impression que ce soit possible, Nicolas Rousselier.
Loin de moi l'idée de nier effectivement le facteur de division que comporte ce sujet. Mon point était juste de dire que les terrains d'expression de la démocratie ça n'est pas seulement le Parlement, ça n'est pas seulement le pouvoir exécutif, c'est aussi ce que la démocratie a inventé après la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle la démocratie sociale. Je reviens à ce thème de la démocratie exécutive, la démocratie de la politique publique. Au fond, le pouvoir exécutif, quand il est devenu fort, c'est ce que j'appelle la force de gouverner, quand il a fini de gagner son match contre le Parlement, il se trouve devant un nouveau problème, au fond, qui est de faire accepter la force de l'administration. Et pour cela, il va tenter de démocratiser l'application de la loi par la parité avec les syndicats, par des négociations, par ce qu'on appelle la démocratie sociale. Donc, le terrain d'expression de la démocratie devient aussi, elle-même, l'ensemble de la société. En revanche, cette démocratie sociale peut à nouveau se retrouver, à son tour, se retrouver sous le feu de la critique, critique de la représentativité, on sait ce qu'il en est des syndicats, et effectivement critique de son inefficacité. Donc aujourd'hui, on est dans la pire des situations, puisque aujourd'hui, on a aussi finalement une crise de la démocratie exécutive après que celle-ci a gagné son match contre la démocratie représentative. Moi, je pense que le gouvernement représentatif, au sens de Bernard Manin, c'est un grand livre, le livre de Bernard Manin, oui. Mais je suis en désaccord avec lui sur la fin. Je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement représentatif à l'âge actuel qui serait fondé sur la démocratie du public. Et l'espace public actuel n'offre pas un gouvernement représentatif. Je pense que le gouvernement représentatif, il est mort quelque part entre 1930 et 1960. Bon.
Alors oui, vous dites le gouvernement représentatif est mort. Arrêtons-nous là-dessus. J'ai apporté le livre de Bernard Manin, justement, Principe du gouvernement représentatif, et il dit que il repose notamment sur l'idée d'une aristocratie élective. Hein, on élit des individus perçus comme supérieurs à leurs électeurs. Alors supérieurs pas dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine politique. Il me semble que la révolte actuelle, et notamment celle des Gilets jaunes, consiste à dire que personne n'est supérieur à personne. Donc, voilà, c'est-à-dire une poussée égalitaire très forte, l'application stricte du principe de Sartre à la fin des mots, un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Une thèse d'ailleurs que contredit évidemment le livre, qui est étincelant et même génial. C'est vraiment pas un homme que vaut n'importe qui, peu importe. On dit ça et on dit donc finalement les élus n'ont rien de meilleur. Au contraire, ce sont des paresseux ou des corrompus qui s'en mettent plein les poches pour rien, et on voit ressurgir, contre la démocratie représentative, l'idée de tirage au sort chez un philosophe comme Jacques Rancière, ou chez Étienne Chouard, l'un des maîtres à penser des Gilets jaunes. Mais là encore, c'est une manière d'affaiblir la démocratie au nom de la démocratie radicale.
Oui, moi je pense que voilà, on est dans une phase de réflexion intense et il y a beaucoup d'idées qui apparaissent, le RIC, donc le référendum d'initiative citoyenne, le vote blanc, le tirage au sort, dont il faut bien percevoir, et je pense que c'est pas une argumentation très difficile à développer, qu'elles sont des véritables usurpations démocratiques. Je pèse mes mots, c'est-à-dire que si on veut détruire la démocratie, c'est exactement ce qu'il faut faire. Oui. Pourquoi ? Une démocratie participative suppose une chose très simple, c'est que les citoyens participent. Voilà. Or, l'usage montre que tout mécanisme de participation s'use très vite. C'est-à-dire que personnellement, j'adore la politique, je suis prêt à y consacrer quelques-unes de mes nuits, mais pas toutes. Et si on installe des procédures ou des institutions de démocratie participative, très rapidement, je n'irai plus, parce que j'aurai autre chose à faire. Et en mon absence, qui ira ? Eh bien, iront dans ces instances des minorités actives, des minorités militantes, des associations, potentiellement nourries par les meilleures intentions, mais progressivement, elles diront « nous sommes le peuple », puisque nous sommes dans une logique participative, et moi, je n'y serai pas. Donc, personnellement, je pense que la plus grande trahison de l'esprit de la démocratie, ce sont ces instances participatives. Alors, attention, et si on ajoute la question du tirage au sort, le drame du tirage au sort, c'est que ça abolit la campagne électorale, ça abolit l'échange d'arguments, c'est-à-dire que la démocratie passe en mode automatique, pilotage automatique, j'allais dire, si on a un système de tirage au sort, pourquoi pas un algorithme pour gérer la démocratie ? Donc on a là des idées qui sont, à mon sens, des gadgets, alors qu'on peut utiliser de manière modérée dans des instances délibératives sur un sujet à un moment donné, bien sûr, ce sont pas des choses à rejeter radicalement, mais qui sont, quand on les généralise et quand on les exagère, de véritables monstres démocratiques.
Vous êtes d'accord ?
Je serais partiellement d'accord. Moi aussi, je rejette ou je critique en tout cas l'expression de RIC et cette idée que chacun peut avoir son référendum finalement et qu'on peut tirer le référendum à la mitrailleuse et que le référendum se multiplierait. Et d'une certaine manière, cette aspiration au RIC est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous les sujets pourraient être mis sur la table. Et je crois que le mot-clé, c'est le mot travail. C'est-à-dire que tous les sujets pourraient être mis sur la table sans être travaillés.
Voilà. Hein ?
Et là, je suis d'accord avec vous. Ceci dit, dans les propositions de démocratie nouvelle ou de démocratie directe, c'est un peu l'auberge espagnole. Il y a beaucoup de choses différentes. Et vous en parlez dans votre livre. Et très bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi des formules qui, là, ne cherchent pas une expression directe, qui ne cherchent pas, si vous voulez, le RIC. Le RIC serait à la démocratie ce que le tweet est à la liberté d'expression. Donc il y a d'autres choses. Il y a aussi les conférences de consensus. Il y a aussi le fait de mettre des gens autour d'une table et de les faire travailler. Mmh. Voilà. La délibération, c'est un travail. C'est pas juste une acmé d'expression. Là, je suis d'accord. Mais il faut pas tout jeter.
Absolument.
La délibération, c'est un travail. L'exécution aussi. La politique, c'est un travail. Oui. Et on l'oublie. Alors, par exemple, les arguments de Rancière dans son livre « La haine de la démocratie » sont très clairs. Il dit que ce qui justifie le tirage au sort, c'est précisément l'absence de tout titre à gouverner. C'est-à-dire, personne n'a aucun titre à gouverner, personne n'a plus de compétences que quelqu'un d'autre, donc il faut tirer au sort. Étienne Chouard utilise plus brutalement les mêmes arguments, parce que, dit-il, ce qui rend possible les injustices sociales, c'est l'impuissance politique des gens bien, des gens normaux. Donc, si le capitalisme devient sauvage, c'est précisément du fait de cette dépossession démocratique. Mais c'est très intéressant, et on en voit les effets aujourd'hui, je termine très vite, avec les manifestations pour sauver la planète. Ce sont maintenant des adolescents, des enfants qui manifestent, des enfants du primaire à qui on tend les micros. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que l'adolescence ? L'adolescence, c'est la jeunesse, l'expérience du monde des pauvres. On n'aime pas la complexité, on n'aime pas l'ambiguïté. on voit la politique comme un affrontement manichéen. Or, sans doute, faut-il sauver la planète, mais c'est très difficile. Parce que qu'est-ce qu'il faut sauver? S'il faut sauver la beauté du monde, par exemple, alors il faut pas étendre le parc des éoliennes. Que faut-il faire du nucléaire pour les émissions des gaz à effet de serre? Est-ce que c'est pas une énergie dont on a besoin? Que faut-il faire aussi pour ne pas mettre en danger notre agriculture et notre industrie? Tout cela demande réflexion, ce sont des problèmes, ce sont des dilemmes, et ils sont oubliés au profit d'une vision manichéenne du pouvoir, justement, qui se traduit par la haine des représentants et la haine des dirigeants.
Oui, alors, excusez-moi. Je voulais dire, voilà, il me semble que dans ces mouvements, et même le mouvement des Gilets jaunes, il y a en effet... Bon, ce que vous dites. Mais il y a un autre point qui me paraît important et qui rejoint la logique associative dont vous parliez tout à l'heure. Il y a un désir de convivialité.
Et ça, c'est vrai.
À l'âge du numérique, à l'âge des réseaux sociaux, on s'aperçoit que les réseaux sociaux, c'est très bien, mais se voir et de se rencontrer, et notamment dans la France périphérique, où il y a quelque chose qui, effectivement, il n'y a plus de bar, il n'y a plus de sortie d'église, il n'y a plus que le supermarché. Voilà, c'est simplement le sentiment d'être ensemble, et même en ville. Donc, il ne faut pas négliger ce deuxième aspect beaucoup plus positif, et bien voir les deux éléments, et de se réunir autour d'une cause. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, au fond, et la critique de Rancière l'incarne bien, on reproche à la démocratie de ne pas être une anarchie. Et c'est ça le point. Le principe de l'anarchie, c'est l'idée que la société a tous les pouvoirs et que tout pouvoir, par définition, est contestable, est discutable, est néfaste. Et donc, je pense qu'il y a un déficit de culture politique, c'est-à-dire qu'on reproche à la démocratie, exactement comme le faisait Proudhon. Proudhon disait, dans démocratie, il y a trop de Kratos, il y a trop de pouvoir, il faut détruire le pouvoir. Et ce qui alimente cette idée, de manière extrêmement concrète, c'est l'Internet. Internet et la réalisation de l'idéal démocratique. C'est vous avez un réseau sans organe central, vous ne pouvez pas l'éteindre, il n'y a pas d'interrupteur général, et Internet est une idéologie anarchiste. Il y a une deuxième couche, Internet. Après Internet, il y a le web. Le web, c'est l'aristocratie, c'est-à-dire celui qui est le plus populaire arrive en tête du moteur de recherche. Et puis il y a une troisième couche, ce sont le web 2.0, c'est-à-dire les réseaux sociaux, et là c'est communautariste. On voit que dans la logique des nouvelles technologies de l'espace public aujourd'hui, il n'y a aucune idéologie qui est favorable à la démocratie. Internet est anarchiste, le web est aristocratique, et le web 2.0, les réseaux sociaux sont communautaristes. Mais ça ne veut pas dire que la démocratie ne parviendra pas à apprivoiser cette technologie. Moi, j'y crois très fortement. Je pense que nous avons les moyens d'apprivoiser cette technologie, sans tout en gardant un minimum de liberté. Mais ça suppose de sortir de l'espèce de naïveté d'hébétude qui considère que la liberté doit régner sur cet espace public qui est le trésor de la démocratie.
Nicolas Rossignol.
Oui, je reviens un peu à ce que vous dites en prenant l'exemple des enfants, adolescents, étudiants. Les étudiants de Sciences Po y sont allés aussi hier, dans cette manifestation. Oui, il y a manichéisme, mais les choses ne sont pas incompatibles. Je reviens à mon image de circuit. Ça peut être, si vous voulez, le déclencheur. À certains moments, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un affect et l'impact de cet affect pour dire non? Et ça n'implique pas qu'il n'y a pas complexité ensuite dans la suite du circuit de la décision. Donc, on peut avoir l'expression, par exemple, moins de banques, plus de banquises, que j'ai lu hier. Pourrait effectivement faire sourire ou même faire pleurer de bêtises, d'une certaine manière, de bêtises économiques. Mais le slogan est là, l'image est là, elle peut être déclencheur. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que si nous nous entendions finalement sur le modèle de politique publique, le modèle de circuit de la décision, où chacun aurait sa place, chaque moment aurait sa place, il y aurait suffisamment d'autorité de l'exécutif au moment de reprendre ses billes pour arriver à trancher la décision, après des négociations, des consultations, où chacun aurait pu s'exprimer. Donc l'idéal de la démocratie exécutive moderne. La situation historique dans laquelle nous sommes ne dépend pas seulement de la qualité de la démocratie. Il y a aussi une autre dimension dont nous n'avons pas parlé, ce sont les contraintes économiques, budgétaires, qui viennent sur nous. C'est-à-dire que la meilleure des démocraties, le meilleur circuit démocratique, s'il aboutit à une décision qu'on pourrait appeler négative, c'est-à-dire pas une réforme bénévolente où on fait progresser la protection sociale, mais, je ne sais pas si le mot existe, une démocratie malévolente, où, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et peut-être que c'est nécessaire, il faut effectivement réduire un budget, plutôt pas réduire un budget, réduire un déficit.
Un déficit,
et donc, au bout du circuit de la décision, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la décision ne sera pas ni perçue comme positive, ni dans sa nature positive. Donc la crise dans laquelle nous sommes, c'est que quand bien même on aurait le meilleur système démocratique, la déception qu'il y a au bout fait qu'on ne remet pas en cause le manque de démocratie, le fait qu'il y a un dysfonctionnement dans le circuit. On remet en cause, et c'est Salvini, c'est le populisme, on remet en cause la nature même de la démocratie, ce qui fait que dans la jeunesse, pas la même. Peut-être pas celle qui était dans la rue hier. Dans la jeunesse, comme vous le savez, il y a des chiffres incroyables de personnes qui répondent que la démocratie est un mauvais système. Là, c'est le caractère nocif du système qui est dénoncé et des personnes qui veulent un général à la tête de l'État.
Mais cela ne vient-il pas justement de cette impuissance que nous analysions les uns les autres et du fait que la démocratie, ou le pouvoir en démocratie, c'est de plus en plus la gestion des contraintes. De Gaulle, vous l'avez très bien montré dans votre livre « La force de gouverner », Nicolas Rousselier, a su émanciper l'exécutif. D'ailleurs, le pouvoir exécutif, c'était une manière de... Vous exécutez des tâches qui vous sont confiées par d'autres. Eh bien non, ce n'était plus cela, mais il le faisait en vue d'une politique de grandeur. Je ne suis pas sûr que la grandeur soit le mot le plus adapté au monde contemporain, mais aujourd'hui, si le pouvoir exécutif est fort du fait de la Constitution, il est faible en réalité, parce qu'il y a toutes sortes de contraintes, parce qu'il y a ce transfert aux instances juridiques, etc. Et donc, ça crée un sentiment de frustration qui peut s'exprimer, comme vous le dites. On veut un chef, on veut quelqu'un, justement, qui ait le pouvoir d'agir, puisqu'on a le sentiment qu'on n'agit plus.
Oui, c'est vrai. L'autre jour, ma fille adolescente m'a dit tout d'un coup « Poutine, c'est la base ». Ce qui veut dire, en langage adolescent, « Poutine, c'est génial ».
Comment c'est ?
Poutine, c'est la base.
La base, ça veut dire...
Oui, c'est ça. En ce moment, c'est ça que ça veut dire chez les jeunes. Ça veut dire « c'est super, c'est très bon ». Alors, j'ai été surpris, je lui ai demandé pourquoi elle voit ça. Parce qu'en fait, elle avait le spectacle de Poutine, vainqueur en Syrie, qui se maintient au pouvoir, et qui, comme ça, a une mise en scène du pouvoir très efficace. Donc, j'ai dû tout réexpliquer, comme le travail de Pénélope, de reprendre tout à la base pour lui expliquer qu'effectivement, tous les défauts délétères de Poutine. Mais on a ce problème. On a ce problème, c'est qu'effectivement, les difficultés de la démocratie nourrissent maintenant des nouvelles images, des nouvelles représentations.
Je veux revenir sur la question de la grandeur démocratique, parce que c'est un thème d'une profondeur inouïe que Tocqueville et bien d'autres ont traité. C'est justement, est-ce qu'il y a encore une grandeur démocratique ou est-ce que la démocratie est vouée à la médiocrité,
la responsable
Et c'est une tentation. Si on se dit aujourd'hui, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de justement l'égalitarisme aplati tout. C'est la défaite de la pensée. Je ne vais pas reprendre l'image, mais si on réfléchit à ce qu'est la nature profonde de la civilisation démocratique. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui reste de cette idée de grandeur, mais non pas de la grandeur aristocratique ou magique de jadis, mais dans le fait de faire grandir. La démocratie, c'est, je crois, la civilisation, en effet, des grandes personnes. C'est-à-dire la civilisation qui, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, a considéré que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, petits ou grands, nobles ou ignobles, de quelque origine sociale qu'ils viennent, eh bien, ont vocation à être des adultes de plein exercice, des majeurs. C'est un idéal absolument époustouflant et c'est aussi la source du problème parce que, en effet, débattre avec des gens avec lesquels on ne partage pas la pensée et peut-être dont les pensées nous paraissent absurdes ou délirantes, c'est un problème. Mais c'est ça, la grandeur démocratique. Et ce point-là, je pense, nous l'oublions trop. C'est-à-dire que nous avons tendance à fustiger l'Occident, l'Europe, comme étant impérialiste, machiste, etc. Oui, bien sûr, cette civilisation l'a été comme toutes les autres. Mais sa spécificité, son trait, c'est précisément cette forme de grandeur qui consiste à faire grandir. Et j'allais dire, l'autorité démocratique, c'est l'autorité, la bonne autorité. C'est l'autorité qui fait grandir à la fois celui qui l'exerce et celui qui s'y soumet. Et c'est extrêmement profond.
Reste à savoir... Être des grandes personnes, pourquoi faire ? J'ai en tête un dialogue entre Hans Jonas et Hannah Arendt. Hans Jonas lui dit « Si la tâche de la politique consiste à transformer le monde en une demeure convenable pour les hommes, alors se pose la question, qu'est-ce qu'une demeure convenable pour les hommes ? C'est une question d'ailleurs que traite Paul-François Skira dans son livre « La demeure des hommes ». Et voilà, qu'est-ce qu'une demeure convenable pour les hommes? Voilà ce qui pourrait être l'objet de la politique. Et il me semble que c'est un peu oublié, alors là, à la fois par les responsables, par les représentants, et aussi par nombre de citoyens en colère. Et ils m'ont fait penser à Mirabeau, ces citoyens en colère, une citation que j'ai trouvée dans votre livre, Pierre-Henri Tavoyot. « Un certain nombre d'hommes imbus de notions faussement républicaines deviennent jaloux de l'autorité au moment même où ils l'ont confiée. » Cette jalousie se donne libre cours aujourd'hui. Mais on pourrait dire, voilà, c'est cela. Faisons de la politique ensemble, mais dans cet horizon, qu'est-ce qu'une demeure convenable à l'homme?
Il y a grandeur et demeure, mais quelle demeure? La grandeur, vous l'avez dit, le général de Gaulle. La grandeur du général de Gaulle, elle fait irruption tout d'un coup, en une seule fois, sur la scène de l'histoire, avec l'appel du 18 juin, qui d'ailleurs est d'une certaine manière manichéen, dont je reviens au thème. Il y a un moment où il faut déclencher quelque chose qui est de l'affect.
C'est la guerre.
C'est pas la politique, c'est la guerre.
Oui.
De Gaulle avait la nostalgie, presque, sinon de la guerre, oui. Du moins, de cette situation.
La guerre est binaire, la politique ne l'est pas. C'est ça la grande différence.
La guerre est binaire, c'est pas forcément certain. En tout cas, la grandeur ici de Gaulle, et ensuite dans la geste du gaullisme, et là, c'est un problème qu'il faut aussi aborder dans notre problématique, parce que la grandeur conçue par De Gaulle et ensuite dans le gaullisme, elle a pour demeure, elle a pour limite l'État-nation. Bon, oui. On connaît la crise de la chaise vide, enfin la politique européenne de De Gaulle. Donc, là, actuellement, nous avons aussi cette situation où nous sommes au milieu du gué, parce que faut-il redéfinir une grandeur par rapport à une demeure qui serait à la limite de l'État-nation, ou faut-il la définir aux limites de l'Union européenne? L'Union européenne n'étant pas spécialement en bonne forme, en bonne santé en ce moment, nous nous trouvons aussi devant ce dilemme. C'est-à-dire que l'idée d'une grandeur de progrès social ou d'une grandeur de paix, on le sait, c'est notre génération. Nous l'avons voulu la redéfinir avec une nouvelle demeure, plus grande, plus large, qui assure la paix avec nos amis allemands. Aujourd'hui, il y a ça qui est en crise. Donc, en fait, on cumule les crises aujourd'hui.
Oui, mais grandeur ou demeure, tout cela me semble un peu oublié aujourd'hui, parce que, à quelque niveau qu'on se place, on a le sentiment que pour les gouvernants et les citoyens, c'est l'économie qui décide de tout. Nous sommes, voilà, l'économie c'est l'essentiel, l'économie c'est la vie. Donc les grandes questions abordées dans le grand débat, aussi bien que par les Gilets jaunes, c'est le pouvoir d'achat, et ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est aussi l'administration du bien-être qui est fait l'obsession de nos gouvernants. Donc là, on a le sentiment que quelque chose de la politique est en train de se perdre. De Gaulle disait « l'intendant suivra ».
Oui, c'est le grand problème de la politique aujourd'hui. C'est-à-dire que la politique est en quelque sorte tétanisée à la fois par l'économie d'un côté et par le droit de l'autre. Voilà. Et la marge de manœuvre se dissout assez largement. Mais, j'allais dire, on peut regarder les choses un peu différemment en considérant en effet que l'exigence des Gilets jaunes, c'est, malgré les réponses qui en sortent, c'est une exigence d'un surcroît de politique. C'est-à-dire qu'on peut être ambivalent sur cette question en disant le contenu des réponses va à l'encontre de la politique, mais le geste de la protestation est un geste d'exigence de politique. Donc là-dessus, on peut être ambivalent. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, pour ce qui est de la France, il me semble que la première des manifestations, et si nous devions tous manifester dans la rue, avec là, cette fois-ci, un objectif très clair et une sorte d'exigence adressée au gouvernement, c'est l'endettement. C'est la question de l'endettement de la France. Pourquoi ? Parce que l'endettement de la France nous prive de toute marge de manœuvre politique. C'est aussi simple que ça. Et si on veut sauver la planète, et si on veut lutter contre les inégalités, et si on veut protéger le service public, et si on veut... Il faut avoir des marges de manœuvre. Donc, le seul axe de la politique contemporaine, mais c'est un moyen, c'est pas un but. Voilà. C'est un moyen, c'est de dire, il faut impérativement que nous parvenions à désendetter notre pays, parce que il faut, du coup, là, en effet, des décisions courageuses qui vont absolument à rebours de toutes les réponses du grand débat. Ça, j'ai bien conscience de ça. Donc c'est
oui, parce que le grand débat, c'est à peu près faire payer un peu plus les riches.
Avec plus de prestations.
Voilà. Avec plus de prestations. Et voilà.
Et moins d'impôts pour les autres. Voilà. Donc,
moins d'impôts pour les autres.
De toute façon, c'est.
Mais on peut pas.
De façon globale,
c'est à la hauteur.
C'est un réendettement. Non, c'est pas à la hauteur, parce que d'un côté, d'après ce qu'on sait des réponses du grand débat, c'est en effet grosso modo, des indexations des retraites par rapport à l'inflation, réindexation des retraites par rapport à l'inflation, baisse de la TVA sur un certain nombre de produits de première nécessité, et puis les autres, c'est des petits gadgets institutionnels, vote blanc, où on vise des ennemis du peuple, ou supposés ennemis du peuple, ISF, etc. Là, j'allais dire, c'est vraiment pas le cœur du débat, et s'il y a quelqu'un qui doit incarner l'intérêt général, il doit sans cesse redire, moi j'incarne l'intérêt général, et l'intérêt général, c'est l'objectif du désendettement, il n'y en a pas d'autre.
Oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la réussite, supposons une réussite dans ce domaine, réduction de la dette, un meilleur fonctionnement de l'État, une série de résultats qui seraient enfin positifs. Les résultats que n'a pas eu, par exemple, la présidence de François Hollande. Imaginons qu'elle soit possible, à la Schröder, on dirait.
Oui, à la Schröder.
Ça ne garantirait absolument pas le succès de ce gouvernement. C'est-à-dire que là, il faut bien le dire, la banalité de ces résultats...
Schröder a été chassé.
Exactement.
Voilà. Donc la banalité... Et Merkel joue sur son air. C'est-à-dire Merkel, la puissance de Merkel, la réputée grande politique de l'ordre.
Vous êtes très critique à l'égard de
oui,
Merkel.
Oui, parce que je trouve qu'elle a pris que des décisions absurdes ou très discutables. Mais Merkel a pu vivre uniquement du fait des réformes de Schröder.
Vous voulez
conclure, oui, donc je voulais dire juste que la banalité de ces résultats ne garantit rien et pourrait très bien déboucher sur une ingratitude de qui ? De la démocratie.
Oui, la démocratie est très souvent ingrate. Bien, merci beaucoup Nicolas Rousselier, merci beaucoup Pierre-Henri Tavoyot. Alors je rappelle d'abord le titre de vos livres, Nicolas Rousselier, La force de gouverner, le pouvoir exécutif en France, 19e, 21e siècle. Le livre est publié aux éditions Gallimard. Pierre-Henri Tavoyot, Comment gouverner un peuple roi, traité nouveau d'art politique chez Odile Jacob. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Morgane Danan. Et dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.